Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Bernard nous a laissé 6 sermons sur la vigile de Noël. Et dans l'un de ces sermons, il commente le petit verset qui revient plusieurs fois dans l'office de ce jour. Nous l'avons eu dans l'introïte de cette messe et dans le graduel. Et puis à l'office, nous l'avons eu à l'invitatoire des matines. Et puis, c'est aussi une des antiennes de petites heures et on le retrouve dans des réponses de petites heures. Voici le texte de ce petit verset. « Odie chietis quia veniet dominus et salvavit nos et mane vi debitis gloria meius. » Aujourd'hui, vous saurez que le Seigneur va venir et qu'il nous sauvera, et au matin, vous verrez sa gloire. Originellement, ce texte est tiré du livre de l'Exode. Ce sont les paroles que Moïse prononça avant le miracle des cailles et de la manne. Les Hébreux dans le désert murmuraient parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas à manger tout ce qu'ils avaient alors qu'ils étaient en Égypte. Alors Dieu a fait un grand miracle, il a promis qu'il leur donnerait de la viande et la manne, les cailles et la manne. Alors Moïse les a prévenus de la part de Dieu en leur disant « Aujourd'hui, vous saurez que le Seigneur va venir et au matin, vous verrez sa gloire. » Mais l'Église, en choisissant ce texte et en l'appliquant à la liturgie d'aujourd'hui, de la vigile de Noël, lui donne une signification beaucoup plus haute que l'original. C'est un peu comme si elle disait « Aujourd'hui, en ce jour de la veille de Noël, vous saurez que le Seigneur va venir. Il est en effet sur le point de naître. » Et nous contemplons tous les préparatifs de sa naissance. Nous nous sommes associés pendant tout l'Avent à Isaïe, et puis avec tous ceux qui, au cours des âges qui ont précédé la venue de notre Seigneur, l'ont attendu en le désirant. Et puis nous avons entendu la prédication de Saint Jean-Baptiste, qui préparait les âmes à l'avènement prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous sommes maintenant rendus à Bethléem, avec les évangiles de Saint-Luc et de Saint-Matthieu, Saint-Matthieu que nous venons d'entendre. Et au matin, demain, vous verrez sa gloire, c'est-à-dire nous verrons l'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est la signification de ce mot, présent dans la crèche, gloire cachée sans doute, qui n'apparaît qu'aux yeux de la foi, mais qui est bien réelle. Mais Saint Bernard, dans le commentaire qu'il donne de ce verset, en élargit considérablement le sens. Odie mane. Il y a 2 jours dans ces paroles, explique-t-il. Le premier jour, celui qui est désigné par le mot odie, n'est pas en fait un jour de 24 heures, mais c'est ce jour qui s'écoule depuis la chute du premier homme jusqu'à la fin du monde. C'est le temps de la vie d'ici-bas. Et le temps aussi de notre vie terrestre à nous tous, à chacun d'entre nous. Et puis le matin, en revanche, désigne l'entrée dans la gloire du ciel, c'est-à-dire la vie éternelle qui nous est promise et qui sera accordée aux élus lorsque le Christ glorieux reviendra ressusciter et juger les vivants et les morts. Alors, dans la lumière resplendissante de ce matin-là, à l'aurore de la vie éternelle, nous verrons la gloire du Christ vainqueur. Vi debitis gloria meius. Or, développons légèrement, si vous voulez, ces 2 considérations. D'abord, le premier jour, celui qui désigne le temps de la vie terrestre. C'est un jour qui, à certains égards, est davantage rempli de ténèbres que de lumière. Un jour qui est plus nuit que jour. Car après le péché d'Adam, les hommes ont été dépouillés de la lumière de la vérité. Ils ont perdu la grâce. Le règne du péché et de l'erreur s'est installé sur la terre. Les ténèbres ont envahi le monde. Et les hommes, comme dit l'Écriture, se sont assis à l'ombre de la mort. Mais ces ténèbres n'étaient pas totales, ça n'a jamais été la nuit complète. Car Dieu a laissé aux hommes la lumière de la raison naturelle, pour qu'ils le connaissent. Mais, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, alors que les hommes avaient le moyen de connaître Dieu à travers ses œuvres, eh bien, ils ne l'ont ni glorifié, ni remercié comme Dieu. Ils se sont au contraire égarés dans leurs vains raisonnements, et l'obscurité s'est faite en leur cœur insensé. Se flattant d'être sages, c'est toujours saint Paul qui parle, Ils sont devenus fous et ils ont substitué des idoles périssables à la gloire du Dieu impérissable. Ils sont devenus idolâtres. Aussi Dieu les a-t-il livrés aux convoitises de leur cœur, à l'impureté et à de honteuses passions. Et c'est bien toujours le cas. Et puis surtout, Dieu a donné aux hommes les lumières de sa révélation. Au milieu des ténèbres, une lumière à lui, comme le dit saint Jean dans son prologue, « Lux in tenebris lucet ». Et les ténèbres n'ont pas pu étouffer cette lumière. « Et tenebre eam non comprehende derunt ». Cette lumière de la révélation, c'était surtout la promesse d'un sauveur à venir. Toutefois, là encore, ceux à qui était destinée cette promesse ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alors c'est pour cela que le texte dit « Aujourd'hui, vous saurez que le Seigneur va venir ». Avant la venue de notre Seigneur, les hommes, les Juifs particulièrement, savaient. Ils savaient que le Messie devait venir. La promesse leur en avait été faite. Et aujourd'hui, après l'incarnation et la venue de notre Seigneur sur terre il y a 2000 ans, les hommes savent qu'il doit revenir au dernier jour du monde pour juger les vivants et les morts et rendre à chacun selon ses œuvres, spécialement les chrétiens. Et on peut dire même les autres, car l'Évangile a été prêché sur toute la terre. Les hommes en ont entendu parler. Ainsi, tout au long de l'histoire du monde, depuis la chute d'Adam jusqu'à la parousie, les hommes ont les moyens de savoir. Ils ont les lumières de leur raison, ils ont les lumières de la révélation, et puis ils ont aussi les lumières des grâces actuelles que Dieu leur donne. Ils peuvent connaître Dieu, ils peuvent croire en Jésus-Christ. Et pourtant, cette connaissance n'est pas partagée par tous les hommes, loin s'en faut. Elle n'est pas le fait du grand nombre, elle est même le fait du petit nombre, le plus souvent. Saint Bernard l'explique en citant le livre des Proverbes. « Crois-tu que ceux qui se réjouissent après avoir fait le mal et qui mettent leur plaisir dans les pires désordres savent ou pensent que le Seigneur va venir ? Et même s'ils le disent, toi, ne les crois pas. Car, comme le dit saint Jean, celui qui prétend connaître Dieu et n'observe pas ses commandements est un menteur. » Ou encore, comme l'écrit saint Paul à Tite, ils proclament qu'ils connaissent Dieu, mais par leurs actes, ils le nient. Et c'est bien vrai. Si les hommes connaissaient vraiment le Seigneur, s'ils savaient qu'il va venir, ils ne se souilleraient pas par toutes sortes de péchés et d'impiétés. Alors il faut se demander, qu'en est-il de nous ? Nous savons, nous, pour le coup, et peut-être beaucoup plus que d'autres, est-ce que nous mettons à profit cette connaissance ? Est-ce que nous croyons vraiment ? Est-ce que nous avons vraiment la foi ? Tout cela nous montre l'importance de la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, l'importance de la foi, et inversement, le drame de l'ignorance religieuse et de l'incrédulité. C'est ça le grand malheur de l'homme. Le malheur de l'homme, c'est pas d'être dans l'ignorance des choses terrestres, des choses contingentes, c'est d'être dans l'ignorance des vérités qui lui sont nécessaires pour atteindre sa fin surnaturelle, pour sauver son âme, c'est-à-dire les vérités de la foi. C'est cela la vraie réalité. Toutes les autres réalités ne sont que fugaces, apparentes, contingentes. L'ignorance de Dieu et des vérités nécessaires au salut, l'absence ou la perte de la foi, c'est le grand drame du monde, le seul vrai drame au fond. Et c'est la source d'un grand nombre de péchés, spécialement le péché d'apostasie, qui est si répandu aujourd'hui. D'autant que souvent, cette ignorance s'accompagne d'insouciance. Non seulement un grand nombre d'hommes ne connaissent pas Dieu et les vérités nécessaires au salut, mais ils ne veulent pas les connaître. Ils se croient assez savants sans la foi et estiment n'avoir rien à apprendre dans ce domaine. Le père Emmanuel du Ménil-Saint-Loup disait, en parlant de cette ignorance religieuse, « Cette plaie est grande et chez tous les hommes, même les chrétiens, même ceux qui se disent chrétiens, elle porte des fruits très amers, mais la plupart des hommes la subissent avec une résignation trop facile et souvent avec une satisfaction que l'on pourrait croire le signe d'un bonheur idiot. Alors le remède à ce mal, eh bien c'est la foi. Il faut croire et se rappeler que le Seigneur va venir. Les âges de foi, précisément, comme l'époque de l'Église primitive, il suffit de lire les Actes des Apôtres ou les Épîtres de Saint Paul pour s'en rendre compte, ou encore le Moyen-Âge, ces âges croyaient vraiment que le Seigneur devait venir, qu'il allait venir. Ils étaient préoccupés par la parousie, alors que pourtant, ils en étaient loin encore. Les fins dernières, le jugement général, ainsi que la résurrection, tout cela tenait une grande place dans leur pensée. Ce n'est pas qu'ils croyaient la parousie imminente, ce n'est pas non plus qu'ils vivaient dans l'angoisse ou dans une curiosité plus ou moins fiévreuse au sujet des derniers jours, pas du tout. C'est simplement qu'ils avaient davantage de foi et d'esprit surnaturel que nous. Ils pensaient au retour de notre Seigneur Jésus-Christ et à leur destinée surnaturelle. Ils savaient qu'ils n'étaient pas sur terre pour s'y installer, mais qu'ils y étaient comme des voyageurs, des hôtes de passage. Ils étaient plus chrétiens que nous. Et puis ils savaient également, mieux que nous, que la vie du chrétien ici-bas n'est que la phase initiale de la vie de la gloire. La vie de la grâce appelle la vie de la gloire. Elle n'en est que les prémices, que l'avant-goût d'une certaine manière. Et l'aboutissement normal de la vie chrétienne, eh bien, c'est précisément le ciel. Alors, ces chrétiens, qui étaient de vrais chrétiens, aspiraient à ce moment où notre Seigneur récompensera les siens. Et puis, ils savaient aussi que la vie de la grâce ici-bas ne se conserve et ne s'accroît que par des luttes qui parfois sont sévères, au milieu d'ennemis acharnés, le diable, le monde, la chair. Et dans ces luttes, le chrétien peut perdre le trésor de l'amitié avec Dieu. Il peut se damner. Alors tout ça les rendait très prudents, méfiants d'eux-mêmes, humbles. Et saint Bernard, justement, rappelle opportunément que cette connaissance de Dieu si nécessaire, cette connaissance de nos fins dernières aussi, ainsi que l'attente de la venue de Dieu, de la venue de notre Seigneur, toutes ces connaissances sont fécondes. Elles nous convertissent. Elle provoque le repentir et la contrition. Savoir que le Seigneur va venir nous fait prendre conscience de la vanité des réalités d'ici-bas. Nous fait prendre conscience aussi du néant de nous-mêmes, de l'énormité de nos fautes. Et cette connaissance engendre une crainte qui est salutaire, la crainte du juste jugement de Dieu. Et puis aussi une juste défiance de nos propres forces. Et en même temps, c'est paradoxal, mais c'est tout à fait vrai, elle fait naître dans notre âme une espérance pleine de joie. En fait, elle nous détache de ce qui est périssable et nous fait désirer la couronne impérissable. Et c'est ça la conversion. Vous avez sans doute remarqué dans les oraisons du missel comme revient souvent cette petite phrase « Despicere terrestria amare celestia ». Il faut mépriser les choses terrestres et aimer les choses du ciel. Il faut vivre pour le ciel. Et par suite, ces pensées nous conduisent à nous corriger, parce que le repentir sans la correction ne sert à rien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu nous donne le temps que nous passons sur cette terre. C'est pour nous préparer à sa venue. Comme dit l'Apocalypse, c'est pour laver notre robe. Nous devons laver notre robe, nous préparer à la vie du ciel. Nous sommes sur terre pour cela. Alors on comprend, quand on saisit ces choses, l'insistance que mettent l'Évangile et saint Paul sur la vigilance. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, de sorte que si le maître vient à la première ou à la deuxième ou à la troisième veille, il vous trouve en train de veiller. Quel que soit le moment où le bon Dieu viendra nous trouver, il faut que nous restions vigilants. Pour terminer sur ces considérations, voici la petite conclusion que donne saint Bernard. il écrit « C'est de cette manière qu'en ce jour d'aujourd'hui, donc le jour de la vie présente, et le jour aussi de notre vie présente à nous, de notre vie terrestre, c'est de cette manière qu'en ce jour d'aujourd'hui, l'avènement du Fils de Dieu allume pour nous la connaissance véritable, celle qui nous apprend que le Seigneur va venir, fondement solide et durable de notre conduite. » C'est le fondement de notre vie chrétienne. Et alors, au matin, vous verrez la gloire du Seigneur. Au jour du retour glorieux du Fils de Dieu fait homme, les justes contempleront les merveilles que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Ils verront ce que l'œil ici-bas ne peut voir. Ils entendront ce que l'oreille humaine ne peut entendre. Ils jouiront de ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme en cette vie. Vous avez reconnu la manière dont saint Paul parle du ciel. Mais si à présent nous ne pouvons voir ces merveilles qui nous sont promises pour plus tard, du moins Dieu nous a ménagé des merveilles sur cette terre qui sont comme les prémices de celles qui nous attendent au ciel. Et précisément, la fête de Noël nous dévoile certaines de ces merveilles qu'il faut méditer. Notamment trois merveilles, on pourrait les appeler les merveilles de la crèche, que l'Église propose à notre contemplation pendant tous ces jours. Que sont ces trois merveilles? C'est d'abord l'union du divin et de l'humain en notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, Dieu qui se fait tout petit par condescendance pour notre fragilité, pour nous élever à sa divinité. C'est ça le mystère de l'incarnation et de la naissance de Jésus. Saint Bernard dit « Ils se rapetissent pour joindre à notre limon ce qu'il y a de meilleur. » Notre limon, parce que nous sommes créés de la poussière, du sol, nous sommes du limon, de la terre. Et cet alliage de la grandeur divine et de la faiblesse humaine transparaît partout dans la fête de Noël et tout autour de la crèche. D'un côté, on voit un enfant emmailloté dans des langes, couché dans une crèche, avec une pauvre mère et un pauvre père qui n'ont pas trouvé de place à l'hôtellerie, de simples bergers qui viennent rendre hommage à cet enfant. Et puis d'un autre côté, des myriades d'anges qui annoncent sa naissance et les prodiges qui entourent cette naissance miraculeuse. L'humain, le divin. Alliage de bassesse et de noblesse, d'humain et de divin. C'est le mystère de l'incarnation dont nous sommes rendus participants. Alors saint Bernard en tire cette leçon. Ô homme, considère ceci avec attention. Tu es limon, ne sois pas orgueilleux. Tu es uni à Dieu, alors ne sois pas ingrat. La deuxième merveille qui découle de la première et qui en est une illustration, c'est l'alliage en la Vierge Marie de la fécondité et de la virginité. Ça aussi, c'est une grande merveille. Elle est vierge et mère tout ensemble. Et la naissance de son enfant est une naissance virginale, miraculeuse. Selon le cours des choses, il n'y a pas de virginité là où il y a maternité et inversement. Eh bien, en Notre-Dame, la virginité et la maternité se sont rencontrées. C'est un fait unique et c'est une merveille qui doit être méditée. Et puis la troisième merveille qui suit les deux précédentes et qui nous concerne cette fois, nous, personnellement, c'est l'union qui se fait en nous de notre pauvre raison humaine, de notre pauvre nature et de la foi, de la vie surnaturelle. Notre cœur humain est transformé, élevé, surnaturalisé par le don et la lumière de la foi et de la grâce. Parce que Dieu s'est fait homme, l'homme peut devenir chrétien. Il peut être incorporé au Christ et la Sainte Trinité peut venir habiter en lui. C'est une merveille, ça aussi. Et c'est quelque chose que nous ne méditons pas assez. Alors, pour conclure avec saint Bernard, voici ce qu'il dit. Dans la première merveille, chrétien, considère avec attention ce que Dieu t'a donné. Dans la seconde, considère par quel intermédiaire il te l'a donné. Et dans la troisième, considère dans quel but il te l'a donné. Il t'a donné le Christ par l'intermédiaire de Marie, dans le but de te guérir et de te sauver. Eh bien, demandons à notre Seigneur et à la Vierge Marie qu'ils viennent dans nos âmes pour vraiment nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.